un jour, un livre, un auteur. Mon cher Philippe Nonni, eh bien, vous avez un invité aujourd'hui en plateau.
Voilà, bonjour Philippe Cybercasbion, bonjour Diego Arabal. C'est surtout Diego Arabal qui va officier aujourd'hui. Hein.
Tout à fait, bonjour les
donc
deux
avec
Philippe,
son invité,
c'est un peu
donc,
notre
Diego, la parole
habitude.
Est à vous.
Merci, mais je l'ai prise, tant pis, hein. On m'a toujours appris que la parole ne se donne pas, elle se prend.
Elle se prend, tout à fait.
Voilà. Et donc, oui, c'est une émission que je vais animer aujourd'hui parce que, ben, devinez quoi, on va parler de polar. Et
non.
Pour parler de polar, on va parler de polar. Et pour parler de polar, je reçois Chris Raveri, un auteur de romans policiers que je n'avais pas encore eu le plaisir de recevoir sur cette antenne. Et donc, c'est chose faite. Bonjour Chris.
Bonjour Diego, bonjour Philippe.
Voilà, et nous allons parler de son nouveau roman, tout chaud, sorti des presses, qui s'appelle Halloween Rouge à Oléron. Qui est un roman qui met en scène des personnages qu'il a déjà, depuis un bon bout de temps, mis en scène. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, Chris, je vais réagir à la lecture de votre livre. Et après ça, vous aurez le droit de réagir. Alors, généralement, comme c'est des auteurs que j'ai au téléphone, je leur dis qu'ils peuvent me taper. Mais comme aujourd'hui, vous êtes en studio, j'évite de le dire.
Il y a des œufs, Chris. Hein. Voilà. Il y a des œufs, vous, juste là, sous la table, et puis vous les lancez sur Diego Arabal, voilà. Si jamais...
Alors, Halloween Rouge à Oléron. Dernière soirée d'octobre, des groupes d'enfants sillonnent l'île d'Oléron en quête de bonbons. Mais des tueurs aussi. Alors que la capitaine Mallory Bernier, dite Malou, est interrogée par des gendarmes suite à la tentative d'assassinat dont elle vient d'être victime, plus loin, sur cette île, un couple de paisibles retraités est froidement abattu à leur domicile. Quel rapport ces meurtres ont-ils avec l'enquête que sur des braquages violents à Bayonne que mène opiniâtrement la capitaine? Et que vient faire dans cette affaire Marco Giacometti, fraîchement sorti de prison où il purgeait une peine de 10 ans pour un casse meurtrier? Ce sont les questions qui se posent à Imanol, Etchebeli, commissaire à la PJ de Bayonne et supérieur de Malou. Pour tenter d'y voir clair, il fait appel à Max Grabowski, son collègue de Bordeaux. Mais les uns et les autres sont bloqués par d'un côté la DGSI et la DGSE, de l'autre... ce qui obscurcit encore cette histoire. Chris Raveri reprend ici ses personnages habituels pour une enquête haletante et bien rythmée. Le récit se développe entre Bayonne, Bordeaux et l'île d'Oléron, en suivant flics et truands dans une course-poursuite accumulant les cadavres et les énigmes, un polar divertissant dont l'intrigue à tiroir tient le lecteur en haleine. Alors Chris, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes rapidement avant qu'on rentre dans votre roman ?
Alors, moi en fait je suis jurassien, je suis palois depuis une trentaine d'années, je suis venu pour travailler ici, j'ai commencé ici à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, et après je suis passé au conseil général qui est devenu après le conseil départemental. Donc, j'étais ingénieur et je suis retraité de la fonction publique territoriale.
D'accord. Et donc, pour meubler votre retraite, vous vous êtes mis à écrire?
Alors, c'est un peu le hasard. Hein. Je n'avais pas du tout prévu d'écrire. J'ai toujours été lecteur depuis mon plus jeune âge. Et il y avait déjà 2 ans que j'étais à la retraite. Et à un moment, j'ai eu une idée. Ça m'empêchait de dormir, il a fallu que je me lève, il a fallu que j'écrive. En 3 jours, j'avais écrit 100 pages de 2 à 4. Après, bon, ben, j'ai passé ça sur l'ordi, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et en un mois, j'avais ce qui est devenu la base de mon premier roman, qui était une romance. Alors, rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui. Et finalement, ben, je l'ai sorti en auto-édition. Mm-hmm. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai pris goût, j'ai trouvé des lecteurs. Ensuite, j'ai fait un deuxième roman... qui est un genre roman du terroir. Je dis genre parce qu'il n'a pas de rapport avec le terroir sur lequel je vis. Donc, c'est une histoire, on voyage pas mal, puisqu'on va même aux USA, au Mali, au Vietnam.
D'accord.
Et puis, je m'étais mis à lire ce genre de romans, ces romans régionaux, polars régionaux. Je me suis dit, ça va être marrant à écrire. Et je me suis lancé. Effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis les lecteurs aussi, donc j'ai continué, et j'en suis au cinquième.
Très bien. Et pourquoi avoir choisi des personnages qui sont situés à Bayonne et à Bordeaux, alors que vous êtes à Pau, donc vous auriez pu les placer sur Pau ?
Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, j'avais pris comme parti pris de prendre la côte. J'aime beaucoup je suis souvent dans les Landes, j'aime beaucoup sur la côte landaise, j'aime beaucoup aussi le Pays Basque, j'aime aussi le Béarn évidemment, mais je me suis dit tiens, je vais situer une équipe de policiers à Bayonne, puis j'en ai mis une à Bordeaux, parce que je travaillais avec les enquêtes à double tiroir, deux enquêtes séparées qui se rejoignent à un moment, puis je les fais travailler ensemble.
D'accord.
Alors je fonctionne de cette façon-là, mais je ne m'interdis pas de venir à Pau dans un prochain roman.
Eh bien, on attend ça avec plaisir. Vos personnages sont quand même assez intéressants. Il y a une relation très proche entre les différents policiers, entre eux. Hein, et même s'ils sont dans des secteurs différents, il n'y a pas trop de concurrence. Il y a plutôt une complémentarité entre les deux commissaires, Imanol d'un côté, Grabowski de l'autre. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une concurrence, puisqu'ils sont tous les deux sur des zones PJ. On pourrait s'attendre à ce que, on n'ait pas trop envie que l'un vienne marcher sur les plates-bandes de l'autre. Mais en revanche, non, ils sont bien, bien complémentaires. C'était un choix de votre part de ne pas les mettre en opposition ?
Oui, tout à fait. Je ne voulais pas partir sur une histoire de guerre des polices, ça ne m'intéressait vraiment pas. Et en plus, mes deux commissaires, qui sont commissaires au début, ils n'y étaient même pas, sont des copains, des anciens joueurs de rugby, donc c'est la solidarité, même s'ils ne jouaient pas ensemble, puisqu'il y en a un, c'est Bordeaux, c'est l'Union Bordeaux-Bègles, et l'autre, c'est à l'Aviron Bayonnais. Mmh. Et mon commissaire bayonnais, je l'ai situé, qui a même joué à haut niveau, donc j'ai gardé la solidarité du rugby.
D'accord. Alors, on va parler un peu de cette histoire. Donc là, on a une enquête qui démarre, qui s'arrête parce que la personne qui suit l'enquête, la capitaine Mallory, est hyper chargée, elle est très très prise, elle bosse énormément, elle fait des filatures, etc. Et donc son supérieur, le commissaire Etcheberry, lui propose de prendre quelques jours de vacances. Et elle en profite pour aller donc sur l'île d'Oléron, coupée de tout, tranquille, sur une île, là dans un endroit où elle va pouvoir décompresser. Et voilà que effectivement c'est le soir d'Halloween, on sonne à sa porte. Alors effectivement le soir d'Halloween, quand on sonne à la porte, c'est des enfants qui viennent réclamer des bonbons. Et là, non, c'est pas des enfants qui viennent réclamer des bonbons, c'est des gens qui viennent distribuer des bastos. Et donc, elle échappe de peu à une tentative d'assassinat. Et elle va quand même réussir à blesser un des agresseurs ou une des agresseuses. On ne va pas dévoiler si c'est des hommes ou des femmes, puisqu'ils sont masqués. Et à partir de là, va se dérouler une course-poursuite. Mais c'est assez intéressant. Comme ça, je vais en vacances, personne ne sait où je vais, et quand même, des tueurs me trouvent.
Alors ça, c'est un parti pris que j'ai pris, puisque mon personnage, la capitaine Mallory Beignet, dite Malou, c'est un personnage fort. Au fil des livres, elle a pris de plus en plus d'importance. D'ailleurs, dans le premier livre, elle est à la crime de Bordeaux. Mm-hmm. Elle travaille sous les ordres de Max Grabowski. Ensuite, elle est passée, je l'ai mutée.
Vous l'avez muté
d'office. Je l'ai muté à Bayonne. Non, pas d'office. Elle a fait une demande à bonnet du forme. Je l'ai muté à Bayonne parce qu'elle avait eu l'occasion d'être détachée sur Bayonne pour travailler avec Emmanuel Etcheberry. Et c'était bien plus côté basque. Et j'avais déjà, dans un deuxième livre, j'avais déjà mis une agression sur elle, mais dans le cadre d'une enquête à Bayonne, où elle s'en était sortie vraiment de justesse. Et là, je l'ai repris comme personnage, puisque pour moi, c'est une femme forte. Hein. D'ailleurs, c'est un personnage qui ne supporte pas toutes ces agressions qu'il peut y avoir contre les femmes, puisque elle respecte la justice, mais elle sera à deux doigts de la faire la justice elle-même.
Une
justicière quand une femme est... Il y a un féminicide, puisque dans tous mes livres, il y en a. Hein.
Mm-hmm. Ouais.
Donc c'est pour ça que je suis parti de cette façon-là. Et c'est un de mes personnages centraux, absolument.
Oui, bien qu'elle ne soit pas, je dirais, hiérarchiquement le personnage central du point de vue hiérarchique,
Non, c'est pas hiérarchique,
voilà.
non.
Mais c'est quand même le personnage central du point de vue de l'intrigue que vous menez. Et c'est vrai qu'elle va être quand même mise à rude épreuve dans cette histoire. Ceci dit, son patron direct va être aussi sacrément déstabilisé par une belle femme qui ne cesse de lui donner des conseils pour qu'il lâche l'enquête.
Oui, tout à fait. Ben, pourtant, Emmanuel Echeverry, hein, c'est une armoire à glace, 2 mètres de haut, un quintal. Bon, c'est une force de la nature, mais d'un autre côté, bon, il aime beaucoup les femmes, évidemment. Et devant les femmes, ben, des
Ils
fois,
font.
ils font et il fait pas. Mais il faut dire que celle que je lui ai mis en face, là, qui est un personnage assez qui devient central, même si elle apparaît pas tout à fait tout de suite dans le livre. Hein, je vais pas trop
Faut
dévoiler.
pas le
Je
divulgâcher
voilà,
non plus,
je vais pas dévoiler, mais
c'est un personnage
c'est une
qui
femme
au
forte aussi.
départ est relativement secondaire, puisque c'est un personnage qui apparaît, qui donne quelques conseils au commissaire Etcheverry et qui ensuite disparaît, mais qui en même temps va prendre de plus en plus de place dans le récit et qui va prendre de la place de façon sacrément violente.
Oui, puisque j'ai créé un personnage qui échappe un peu à. C'est un personnage qui était créé pour. Alors, je ne veux pas trop dévoiler, mais en fait, on devient dans le nos limites un peu. Hein, elle a plus d'âme, en fait, cette femme. Elle est capable de tuer
Sans le moindre
sans
remords
le moindre remords,
et de façon quand même un peu perverse
Oui,
parfois, hein.
parfait. Mais en fait, sur ordre quand même à la base, hein, ce n'est pas une. Elle tue pas pour tuer, elle tue pour une cause.
Oui, elle est totalement investie dans cette cause. Elle serait un peu le pendant négatif de Malou, non?
Oui, puisque Malou, c'est l'inverse. Elle peut tuer, mais s'il le faut vraiment, pour défendre sa vie ou pour défendre quelqu'un.
Oui. Là, au début du roman,
Voilà.
bah, elle récupère son arme de service et elle tire sur un des deux agresseurs qui ont pénétré chez elle. Et bah, elle n'a pas d'état d'âme sur le fait que bah, elle l'a peut-être blessé ou peut-être tué, mais elle n'a pas l'état d'âme par rapport à ça.
Non, parce
Non.
qu'en fait, elle n'a pas le choix.
Oui.
C'est elle
C'est
ou
elle
l'autre.
ou l'autre. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, le fond de l'histoire est quand même assez complexe, puisqu'on va se retrouver avec des affaires qui se déroulent à Oléron, on va se retrouver avec des affaires qui se déroulent à Bordeaux, on a aussi des choses qui se passent à La Rochelle, et puis qui se passent à Bayonne. Quelle est la façon de tricoter tout ça?
Bon, en fait, moi, j'ai une méthode d'écriture. C'est vraiment ma propre façon d'écrire. Je ne travaille pas avec un scénario tout ficelé. Je ne peux pas travailler de cette façon-là. Je pars d'une idée et je démarre. Ça peut m'emmener 40, 50, 60 pages, plusieurs chapitres. Mais quand je démarre mon histoire, je ne connais jamais la fin. Et la fin, je la crée, à un moment, évidemment, en cours de route. Mais des fois assez loin. Et je recentre. C'est ma méthode de travail. Et je crée mes personnages. Alors j'ai mes personnages habituels. Et je crée plus des récurrents des fois que je peux réutiliser. Comme par exemple, j'ai une médecin légiste. Je suis à Bayonne par exemple. J'ai une médecin légiste. Ben, mettons, si j'en ai besoin, je vais la reprendre. Je prends toujours la même pour l'instant. Bon, tant qu'elle est à Bayonne, je la prends. Je travaille de cette façon-là. Et a priori, ben, ma foi, le principal, c'est le lecteur après qui va juger, voir si on a réussi à son coup ou pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que je suis retombé sur mes pieds. On va voir si dans celui-là, ce sera la même chose.
Eh bien, on va le voir, oui, Philippe.
Je vais vous lire un petit extrait du roman
Mais
Diego
avec grand
Arrabal,
plaisir.
écrit également, donc c'est le début du chapitre 2. Halloween, Saint-Pierre d'Oléron, 31 octobre 2023. Après une journée fraîche débutée sous un temps pluvieux et venteux, la nuit venait de tomber sur Saint-Pierre d'Oléron. La sonnette de la porte d'entrée des Dubonnet retentit, stridente. Immédiatement, le matou courageux sauta du canapé et se réfugia dessous. « Tu attends quelqu'un ?» demanda l'épouse à son mari, affalé dans son fauteuil en cuir plein feu devant le téléviseur allumé sur une émission de karaoké. Sur l'écran, des chanteurs inconnus profitaient de leur heure de gloire, coachés par un animateur au sourire permanent, parrainé par une marque de dentifrice. « J'y vais !» maugréa le retraité dérangé. Il déposa son verre de bourbon hors d'âge sur un guéridon recouvert d'un aperon immaculé en dentelle de Calais. Dès l'ouverture de la porte d'entrée, un piaillement de voix enfantine l'assaillit. « Des bonbons ou un sort ?» Devant lui, cinq enfants le menaçaient de leur déguisement d'Halloween. La plus petite, 4 ans environ, voilée de la tête aux pieds en fée maléfique, tenait une boîte anthracite décorée d'une tête de mort. L'unique garçon de la bande, âgé de 6 ans, arborait une tenue rouge de diable à longue queue et brandissait un trident noir aux dents acérées sanguinolentes. Engoncé dans un habit vert pomme en forme de citrouille ridicule, le troisième, une fillette malingre du même âge, semblait un peu perdue. Les deux aînés, 8 et 9 ans, en collant un juste au corps, masque sinistre de carnaval morbide sur le nez, affichaient un air terrible. « Sophie, as-tu des bonbons ?» Mince, j'ai oublié d'en acheter. 5 mains à l'index agressif se tendirent aussitôt vers le couple sans cœur.
Eh bien, c'était bien comme entrée en matière et ça donne envie de le lire. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de la couverture ? Qui c'est qui vous a fait votre couverture ?
Alors, je travaille avec une graphiste landaise.
Mm-hmm. Que nous recevrons la semaine prochaine.
Eh bien, très bien, qui s'appelle Nathalie Glevarek. Bon, donc, qui est maintenant aussi auteur de polar.
C'est pour ça qu'on la reçoit.
Pardon. Donc je suis à mon 5e polar avec elle.
Mm-hmm.
Et vraiment, elle travaille très bien et on arrive à travailler dans, très rapidement pour sortir la couverture puisque je lui envoie le manuscrit, elle le lit, elle me fait des propositions et en général, en 10 à 15 jours, c'est terminé.
Et elle vous fait beaucoup de propositions, 2, 3 ?
Non, ça va très vite. Je vois comme sur celui-là, c'était peut-être le plus rapide. En une semaine, elle était conçue. La première proposition de base avec la double identité, parce que je tenais à ce que la double identité apparaisse. Il y avait l'île d'Oléron qui vient pour la première fois, mais je voulais l'identité basque.
Mmh.
D'ailleurs, dans tous mes livres...
Dans les couvertures de tous vos livres, voilà. on retrouve voilà. le drapeau basque.
Puisque, ouais. Comme je retravaille avec ces équipes d'enquêteurs, en particulier la PJ de Bayonne, qui se retrouvait un peu la plus importante dans les affaires maintenant... Mmh. Donc je voulais que l'identité apparaisse. Et puis ce roman, il a vraiment une double identité. Puisque ça m'arrive, ça m'était déjà arrivé d'aller en Corse dans un précédent.
Mmh.
Hein. Je peux, effectivement, je n'ai pas fait le Béarn encore, mais j'hésite pas à aller ailleurs. Donc voilà, je suis très satisfait de travailler avec cette graphiste. Et si elle continue à faire des couvertures... Hein, et que moi, je continue à faire du polar, je continuerai avec elle.
Eh bien, c'est parfait. Philippe, vous vouliez poser une question.
Oui, une question. Chris Ravery, vous disiez à l'instant, donc, concernant la graphiste, bon, vous lui envoyez donc, votre roman, elle lit le roman. C'est pour vous qui êtes éditeur, également Diego Arrabal.
Oui.
Une graphiste, elle lit systématiquement un roman avant de faire la couverture.
Pas forcément.
Parce que c'est quelque chose, oui, c'est un fait que je connaissais pas. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Chris Ravery.
Disons que nous, on ne donne pas systématiquement le roman à lire à la graphiste, hein, parce que c'est quelqu'un qui est en freelance et qui a une grosse charge de travail, puisqu'elle travaille aussi pour des institutions. Donc nous, ce qu'on fait, ce que moi je fais pour lui demander les couvertures, je lui envoie un synopsis du roman.
D'accord.
Avec les grandes lignes, et quelques idées de ce qu'elle pourrait mettre dedans. Alors, je n'envoie pas de photos, mais je dis, voilà, il pourrait y avoir tel type de décor, ça pourrait être tel type, par exemple, une ambiance de brouillard ou autre chose. Hein. Donc ça, c'est l'élément que nous faisons. Et ensuite, le ou la graphiste, puisque nous avons 2 graphistes aux éditions Arcane 17. Le ou la graphiste nous fait des propositions et avec l'auteur, nous choisissons celle qui nous semble la plus pertinente.
Parce que là, on voit, bon, ça veut dire il y a 226 pages, quoi.
Il faut lire les 226 pages, effectivement, ouais. avant de composer effectivement la couverture. Donc c'est un travail conséquent quand même que de lire pour une auteure. C'est pour ça que je vous posais la question, Chris Ravery, parce que ça veut dire que là, elle s'imprègne complètement effectivement de l'esprit du roman, et on voit bien que sur la couverture, bon, il y a le drapeau basque, de l'autre côté, donc on voit, je suppose que c'est le dessin de l'île de ouais. l'île d'Oléron, voilà, que l'on voit. Alors, les couleurs bleues, qu'est-ce que ça...
En fait, c'est la couleur bleue avec l'île et le io qui sont dedans, c'est une représentation un peu officielle de l'île, parce qu'il existe bien un drapeau de l'île d'Oléron, mais en fait, personne, malheureusement, ne le connaît, et en plus, il a des couleurs qui se rapprochent énormément du drapeau basque, je crois aussi, avec du bleu dedans, mais si on avait mis ce drapeau sur la couverture... Personne n'allait savoir à quoi ça correspondait.
D'accord.
Parce que il faut, c'est très moi, ce que je tiens à chaque fois dans mes couvertures, c'est que l'identité soit forte. Alors, la façon dont elle travaille, je pense que c'est un plus. C'est son choix. Hein. Vous aurez l'occasion d'en parler avec elle quand elle viendra. Mais je trouve que c'est un plus. En plus, ben, moi, je me retrouve aussi éditeur en même temps, puisque j'ai créé ma propre maison d'édition. Même si je m'édite que moi-même.
Marisa Édition.
Ouais. Voilà, Marisa Édition, mais, voilà, c'est bon,
j'ai le droit d'éditer aussi, si je voulais.
Voilà, hein, voilà.
Donc, c'est un plus, mais c'est une autre façon de travailler. Bon, de toute façon, le principal, c'est que chaque fois, on arrive à une couverture qui tienne la route.
Très bien. Eh bien, je rappelle que nous recevions Chris Ravery pour son roman « Halloween sanglant à Oléron » chez Marisa Édition.
Halloween rouge.
Halloween rouge qui est le... pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, sanglant. Ah oui, non, c'est Halloween rouge à Oléron, c'est moi qui ai mal...
Non, mais il fait souvent le coup pour savoir si, en fait,
la personne qui l'interview... Bah oui, ça, c'est les déformations de prof.
Voilà,
hein.
Et vous voyez, vraiment là ou pas, quoi. Hein. C'est un peu le genre de Diego Arabat, l'esprit, es-tu là ? Bon, voilà. Et on voit bien que on a
là.
Entendu les trois coups voilà, sur la,
il était là,
sur la table, effectivement.
Voilà. Merci, Chris. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour votre prochain roman, mais surtout, belle vie et longue vie à celui-là.
Eh bien, merci bien.
Au revoir.
Merci de m'avoir reçu.
Ben, je vous
merci
en prie.
À vous. À bientôt.
Eh bien, chers auditeurs, chers Philippe et Philippe, eh bien, à la semaine prochaine.